15 Français ont reçu le prix Nobel de littérature depuis sa création.
Et on est allé mettre le maître.
Il va essayer de transformer sa propre réalisation.
Essai !
Magnifique coup de pied par-dessus la défense.
Eh bien, il y a quelques semaines, je vous ai parlé d'un livre d'une histoire populaire de la France d'un historien nommé Noiriel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre écrit par Michel Le Zancarini-Fournel et qui s'appelle « Une histoire populaire de la France ». C'est-à-dire le même titre, mais le titre principal est un peu différent. Celui de Michel Zancarini-Fournel s'appelle « Les luttes et les rêves ». Alors, cette personne est une professeure d'histoire à l'Université de Lyon 1 et elle s'est spécialisée dans les luttes sociales, l'histoire sociale contemporaine notamment, et a consacré donc ses recherches à l'histoire des milieux populaires. D'où ce titre « Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours ». Alors pourquoi a-t-elle choisi cette date de 1685 ? C'est parce qu'en même temps, c'est la date de la révocation de l'édit de Nantes et en même temps la date de l'adoption du Code noir, c'est-à-dire qui va établir les fondements juridiques de l'esclavage à la française. Et donc, je vais vous lire comment elle parle de ce livre et elle pose la première question : quelle histoire populaire ? Au XXe siècle, s'appuyant sur sa connaissance de la paysannerie méridionale et sarde, le penseur et militant communiste Antonio Gramsci définit le peuple comme l'ensemble des classes subalternes et instrumentales de toutes les formes de société qui ont existé jusqu'à maintenant. La définition associe ici domination politique, les classes subalternes, et domination sociale, les classes instrumentales, ce qui signifie classe salariée. Elle dit « J'ai tenté d'écrire ici une histoire populaire des dominés, une histoire située des subalternes qui s'appuie autant que possible sur leur expérience telle que l'on peut la reconstituer tout en étant attentive aux cadres sociaux, c'est-à-dire aux contraintes qui ont pesé sur elles et eux. Cette histoire des multiples vécus d'hommes et de femmes, celle de leur accommodement au quotidien et parfois ouverte ou cachée, de leur résistance à l'ordre établi et au pouvoir dominant, l'histoire de lutte et de rêve. » Formule empruntée d'ailleurs à un texte de Victor Hugo et qui avait, disons, publié ce texte en 1856. Le récit commence en 1685, comme je vous le disais tout à l'heure, date de l'adoption du Code noir qui établit pour la première fois le fondement juridique de l'esclavage à la française. C'est également en 1685 qu'est signé l'édit de Fontainebleau qui exclut les protestants de la communauté nationale en les soumettant à une terrible répression. Choisir cette date comme point de départ d'une histoire de la France moderne et contemporaine, c'est vouloir décentrer le regard, affirmer l'intérêt pour les vies de femmes et d'hommes sans nom, et pour les minorités religieuses et de couleur, et pas seulement pour les puissants et les vainqueurs. Et le livre s'arrête à la fin de l'année 2005, au moment où se révèle sans doute, dans toute son acuité, le caractère postcolonial d'une histoire nationale confrontée à un retour du refoulé, à un passé qui ne passe pas, celui de la colonisation. C'est aussi l'année où s'inscrit dans les urnes le refus d'une Europe néolibérale et où éclate, après la mort de deux adolescents, une révolte généralisée dans les quartiers populaires, suivie de la promulgation de l'état d'urgence. Les questions posées de façon manifeste cette année-là animent encore très vivement notre présent. Pas plus que la France ne remonte en tant que phénomène historique à nos ancêtres les Gaulois, son histoire ne saurait se réduire à celle de l'Hexagone. Les colonisés des Antilles, de la Guyane, de la Réunion, puis d'Afrique et de Nouvelle-Calédonie, d'Indochine et des comptoirs de l'Inde prennent ici toute leur place dans le récit, de même que les migrants, migrantes également, qui, accueillis à bras fermés, ont façonné ce pays. Par ailleurs, c'est une évidence, la France ne s'imite pas à Paris et nous irons jusqu'au fond des campagnes scruter le quotidien et les actions des hommes et des femmes, du peuple. Enfin, est-il encore nécessaire de le préciser, les femmes seront intégrées au même titre que les hommes et à égalité dans ce récit historique. L'exigence de dignité, être considérées comme des êtres humains, traverse ce livre exprimé aussi bien par les esclaves des Antilles ou de la Réunion que par les prisonniers des années 1970 en passant par les grévistes des années 30, représentés sous la couverture de cet ouvrage. Cette histoire, qui ne peut être que partielle, s'appuie sur des études existantes jusqu'aux plus récentes, ainsi que sur des documents d'archives de première main, des peintures ou des gravures, des romans et des films. Le lecteur, c'est-à-dire vous, j'espère demain, le lecteur ou la lectrice notera un tropisme stéphanois qui ne révèle pas d'une affirmation régionaliste, mais d'une connaissance approfondie des archives locales que j'ai labourée, dit-elle, de longue date et avec constance. Les études et les documents sont référencés dans des notes de fin d'ouvrage. Le récit s'attache à mettre en exergue des histoires singulières et pas seulement une histoire de groupe, de mouvement ou d'organisation. Il s'agit d'une histoire incarnée, passant parfois par l'intime, une histoire sensible, attentive aux émotions, aux bruits, aux sons, aux paroles et aux cris. C'est pourquoi le texte est émaillé de nombreuses citations, témoignages, manifestes et chansons qui sont autant de voix à entendre. La première partie, je vais vous donner simplement le titre, s'appelle « Les subalternes face à l'autorité royale 1685-1789 ». Bonne lecture.